cours d'économie.
L'AG Camine a clôturé 2024 avec une perte de plus de 47 millions de dollars selon un rapport parlementaire pointant l'échec du traitement à façon et la faible rentabilité des joint ventures. Réforme bancaire, le député national Olivier Kassanda salue une avancée majeure pour l'inclusion financière en RDC, dans un pays où moins de 10% des citoyens ont un compte en banque. L'élu du district de la Lukunga est l'invité de l'économie. Bienvenue à tous. L'AG Camine a terminé l'année 2024 avec une perte financière colossale de plus de 47 millions de dollars américains. C'est ce que révèle un rapport de la commission parlementaire après une mission de contrôle effectuée fin mai au sein de cette entreprise minière. Le point avec Ben Chokuta.
Selon le rapport de la commission parlementaire, la stratégie de traitement à façon adoptée par la direction de l'AG Camine a été un échec. En 2024, l'entreprise a déboursé plus de 58 millions de dollars pour ce mode de production, mais n'a généré que 10,6 millions de revenus. Résultat, une perte nette estimée à 47 418 621 dollars. Le document pointe également du doigt le manque d'investissement dans les domaines clés comme la prospection, la certification des gisements ou l'acquisition d'équipements nécessaires à l'exploitation et au traitement du minerai. La commission note aussi que les joint ventures et contrats d'amodiation signés par la AG Camine ne sont pas rentables. Ils semblent davantage bénéficier aux partenaires privés et à certains dirigeants qu'à l'entreprise elle-même. Contacté par Radio Okapi, l'AG Camine n'a pas souhaité commenter ces informations.
Après ce sombre tableau des finances de l'AG Camine, intéressons-nous à une autre actualité économique d'envergure. 60 millions de dollars américains, c'est le montant que souhaite lever la République démocratique du Congo sur le marché financier local. Une émission d'obligations du Trésor libellé en dollars a été lancée mardi. Pour le gouvernement, il s'agit d'une opération stratégique destinée à financer le budget national. Retrouvons encore une fois Ben Chokuta pour les détails.
Le gouvernement congolais propose des obligations du Trésor d'une maturité de 18 mois avec un taux d'intérêt annuel fixé à 9%. Objectif, mobiliser l'épargne intérieure et réduire la dépendance aux emprunts extérieurs. Cette initiative s'inscrit dans la stratégie nationale de diversification des sources de financement. Le ministère des Finances indique que les fonds levés serviront à financer des projets prioritaires de la loi des finances 2025, notamment dans les secteurs des infrastructures, de la santé et de l'éducation. La Banque centrale du Congo assure le suivi de cette opération. Parmi les investisseurs ciblés figurent les banques, compagnies d'assurance et autres acteurs du marché financier local. Le Trésor espère une forte adhésion à l'image des précédentes émissions, jugées satisfaisantes. Pour l'année 2025, le gouvernement prévoit de mobiliser un total de 369,15 milliards de francs congolais à travers des émissions d'obligations du Trésor.
Pendant que le gouvernement cherche à mobiliser des fonds pour financer son action, une autre institution publique attend toujours d'être payée. La SCPT, ex-OCPT, réclame 256 millions de dollars à l'État, une dette certifiée mais toujours pas réglée. Plus de détails avec Blaise Ndongala Mayanda.
Sous couvert d'anonymat, un délégué syndical de la société congolaise des postes de télécommunications exprime son désarroi à la suite de la situation financière de cette entreprise et regrette que leur dossier n'évolue pas après la saisine du cabinet du chef de l'État. Du côté de la présidence de la République, des promesses de progrès ont été faites. Il a été annoncé qu'une réunion tripartite impliqua les syndicats, la direction générale de la société congolaise des postes de télécommunications et le cabinet du chef de l'État pour le 20 juin courant. Pendant ce temps, les travailleurs de la SCPT voient du noir et piaffent d'impatience. La situation est d'autant plus qu'alarmante que les agents de cette entreprise acquisent plus de 200 mois d'arriéré, note des syndicalistes. Ces retards de salaire mettent non seulement en difficulté de nombreux employés, mais soulèvent également des questions de la gestion financière du gouvernement. Alors que les discussions se poursuivent, la nécessité d'une solution rapide et durable est plus pressante que jamais. Les agents espèrent que la réunion annoncée apportera des réponses concrète et mettre fin à une attente insupportable.
Quittons Kinshasa pour l'Ituri où les réalités économiques prennent une tournure dramatique. Dans le territoire de Djougou, l'insécurité bloque le trafic sur l'axe Katoto-Largou avec de lourdes conséquences sur l'économie locale et la vie des habitants. Le trafic est très timide depuis environ 3 semaines sur ce tronçon suite à la présence des miliciens qui s'attaquent aux usagers de la route. 4 ont été tués au début de ce mois vers Masumbuko. Conséquence, plusieurs produits champêtres ne sont pas évacués et pourrissent. et les prix de produits de première nécessité ont galopé dans plusieurs entités situées le long de cette route des dessertes agricoles. Isaac Remoyope.
Une tension communautaire s'observe depuis le meurtre de 4 personnes il y a 3 semaines par des présumés miliciens de la Côte d'Éco vers Masumbuko sur les tronçons routiers Katoto-Largou, ce qui a entraîné la suspension du trafic sur cette route des dessertes agricoles, affirme la société civile locale. Des dizaines de villages sur ces tronçons sont enclavés, pas d'entrée ni de sortie pour l'évacuation des vivres et l'achat des marchandises. Charité Banza, le président de cette structure citoyenne, indique que des pommes de terre, des choux, des ananas pourrissent sur place faute de débouchés. Les produits de première nécessité tels que les sucres, les savons, les sels, l'huile végétale et même les carburants sont devenus rares et chers sur les marchés. Les communautés locales demandent au gouvernement de sécuriser ces tronçons. Charité Banza, acteur de la société civile.
Que la sécurité soit établie sur les tronçons parce que jusqu'à présent, il y a beaucoup d'impacts négatifs. Il y a même des pommes de terre, il y a des choux. Les gens veulent l'amener à Bougna. Alors ces produits commencent à pourrir dans les champs. Et même des marchandises chez les commerçants aussi sont... Il faut monter des prix suite à cette non-fréquentation de cette structure-là.
La MONUSCO organise des rencontres entre les communautés locales pour décrisper la tension et faciliter la libre circulation des personnes et de leurs biens. Les FARDC organisent aussi des escortes de véhicules de commerçants sur ces tronçons. Bougna, Isaac Remoyope, Radio Okapi.
Malgré ce contexte tendu, certaines initiatives positives émergent à Bougna. La MONUSCO, en collaboration avec les jeunes, mise sur la formation professionnelle pour lutter contre le chômage et renforcer la cohésion sociale entre les participants issus de différentes communautés. 44 jeunes, dont 4 femmes, apprennent depuis lundi la formation des conducteurs d'excavatrices. Cette formation est assurée par le contingent bangladais de la MONUSCO, Kandoromo. Pour rappel, la MONUSCO a déjà formé des centaines de jeunes, notamment en informatique, mécanique, plomberie et électricité.
Écho d'économie.
Retour à Kinshasa pour terminer ce journal de l'économie avec notre invité. Le député national Olivier Kassanda salue l'adoption de la proposition de loi sur la réforme bancaire au niveau de l'Assemblée nationale. Il estime que ce texte, une fois promulgué, va favoriser l'inclusion financière en RDC. Olivier Kassanda s'entretient avec Blaise Ndongala Mayanda.
Bonjour monsieur Olivier Kassanda Katwala.
Bonjour monsieur Ndongala.
Votre proposition de loi sur la réforme bancaire a été adoptée à l'Assemblée nationale. En quoi consiste cette proposition?
La proposition de loi que j'ai déposée et qui a été adoptée en première lecture le 15 juin 2025 répond à une crise profonde dans notre système bancaire. Depuis juillet 2023, toutes les 15 banques opérant dans notre pays, qu'il s'agisse des filiales internationales comme Ecobank ou Citibank ou de banques locales comme Robank, TMB, Equity, toutes était plongé dans une illégalité en raison d'une exigence de la loi bancaire imposant un minimum de 4 actionnaires significatifs. Cette règle, bien entendu, est très incompatible avec leur structure actionnariale, souvent majoritaire. Elle a rendu leur conformité impossible malgré un délai initial de 6 mois prolongé illégalement à 3 ans par la Banque centrale du Congo. Ma proposition modifie cette approche en supprimant cette obligation rigide et en instaurant un minimum de 2 actionnaires. Une mesure, j'allais dire, plus réaliste qui respecte le modèle économique en place. De plus, elle confie à la BCC le pouvoir de définir par instruction les quotités des participations dans les capitales, bien que cette disposition soulève des réserves que nous comptons bien entendu corriger au Sénat. Enfin, un délai de 5 ans est accordé aux banques existantes pour s'adapter à ces nouvelles exigences, offrant une transition progressive tout en assurant la continuité de leurs opérations.
Quels sont les avantages que votre proposition de loi pourra apporter dans les circuits bancaires congolais?
Cette réforme apporte des bénéfices concrets et mesurables pour notre système bancaire qui souffre d'une sous-bancarisation chronique et d'un climat des affaires fragilisé. Tout d'abord, elle met fin à l'illégalité des banques, leur rendant une légitimité juridique essentielle pour opérer avec leurs partenaires locaux et internationaux. Ensuite, en supprimant l'exigence des 4 actionnaires significatifs, elle élimine une barrière majeure qui décourageait les investisseurs, facilitant ainsi l'entrée de nouveaux acteurs, notamment des filiales panafricaines ou internationales, dans un marché où le capital est rare. Le passage à un minimum de 2 actionnaires permet aux banques existantes, qu'elles soient locales ou étrangères, de conserver leurs structures opérationnelles tout en s'adaptant, renforçant leur résilience face aux défis économiques. De plus, cette flexibilité
pourrait, si les quantités sont ajustées, ouvrir des opportunités aux petits souscripteurs congolais, favorisant une inclusion financière progressive dans un pays où 90% de la population n'a pas accès aux services bancaires. Enfin, en alignant les exigences sur les pratiques régionales comme celles de la CEMAC ou de l'UMOA, où la souplesse actionnariale attire les capitaux, cette réforme soutient la vision du président de la République, Félix Tshilombo Tshisekedi, de transformer notre pays en un hub économique compétitif.
Alors, que répondez-vous à ceux qui estiment que votre initiative risquerait d'entraver la participation d'investisseurs nationaux au capital des banques établies sur les territoires nationaux?
C'est une préoccupation que je prends au sérieux et que je m'engage à dissiper. L'exigence antérieure des quatre actionnaires significatifs, en rendant les banques illégales, excluait déjà les investisseurs congolais, qu'ils soient modestes ou institutionnels, incapables de mobiliser les fonds nécessaires pour répondre à cette contrainte. Quant à ma proposition, en réduisant ces seuils à 2 actionnaires, elle ouvre la porte à une participation plus large, y compris pour les nationaux, en éliminant une barrière insurmontable. Toutefois, l'habilitation accordée à la BCC pour fixer les quantités de participation constitue un risque réel d'exclusion. Si des quantités élevées sont imposées, comme les 15% antérieurs, les petits souscripteurs congolais ou les PME locales seront probablement marginalisés, favorisant les investisseurs étrangers à fort capital. Je propose donc que le Sénat supprime cette clause pour garantir une liberté actionnariale, comme en Afrique de l'Est, où les mécanismes inclusifs permettant aux citoyens d'investir dans les banques existent.
Après l'adoption de ces textes au niveau de la Chambre basse du Parlement, quel est le message que vous pouvez lancer à l'endroit des opérateurs du secteur bancaire congolais?
Aux opérateurs du secteur bancaire, je transmets un message d'optimisme prudent mais exigeant. L'adoption en première lecture de cette loi est une étape majeure. Elle vous libère de l'illégalité qui pesait sur vous depuis 2023 et vous offre un délai de 5 ans pour vous conformer aux nouvelles exigences. Cette période doit être mise à profit pour restructurer vos actionnariats, renforcer vos fonds propres et diversifier vos services pour répondre aux besoins des 90% des Congolais non bancarisés. Je vous invite donc à collaborer étroitement avec la BCC pour une transition fluide et à préparer des stratégies d'expansion, notamment en ciblant des petites et moyennes entreprises locales.
Monsieur Olivier Kassanda Katwala, nous vous disons merci d'avoir accepté de répondre à nos questions.
C'est moi qui vous remercie, monsieur Ndongala.
Ainsi s'achève cette émission. Merci à vous tous de l'avoir suivi et très bonne suite de programme sur la fréquence de la paix.